voix nue, par Céline Duchesnet. Toute cette semaine, nous sommes avec Claudie Hunsinger, artiste plasticienne et romancière. Deuxième épisode, La vie verte. Bonsoir Claudie Hunsinger.
Bonsoir Céline.
Nous poursuivons notre conversation entamée hier où nous avons été sur les traces de votre enfance, une enfance passée sous le signe du réconfort des mots et de l'émerveillement devant la nature. Nous vous avons laissé, jeune femme, en 1965, professeur de dessin à Colmar. Alors 1965, c'est aussi l'année où vous décidez de vous installer en pleine montagne. Sauf que là, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée de Francis Huntinger qui deviendra votre mari et que vous connaissez depuis quasiment toujours, je crois.
Oui, nous nous sommes rencontrés en 45, juste après la libération, dans la seule école qui était alors ouverte à Colmar et ouverte aussi bien à toutes les confessions, c'est-à-dire les petits protestants, les catholiques, les juifs, voilà, tout le monde s'était retrouvé enfant. Et nous nous sommes perdus de vue. Nous nous sommes retrouvés et je pense que c'est parce qu'il est Francis a été amoureux de notre famille. Il a été amoureux de mes sœurs, il a été amoureux de ma mère, il a été amoureux pour finir un petit peu de moi. Et c'est comme ça, je pense que oui, que tout naturellement, je crois qu'il a... Il a beaucoup parlé avec ma mère de ce dont il rêvait. Il rêvait de s'établir berger. C'était aussi quelque chose qui lui venait, une sorte de rêve qui lui venait aussi du côté de sa famille à lui, puisque sa mère, dans les années 30, était allée au Contadour, qui était un lieu mythique, qui était le lieu qu'animait Jean Giono, avec des grandes conférences, des tenues autour de feux de bois, sous la lune, au milieu des troupeaux de brebis, voilà, et on parlait aussi de désobéissance civile et de choses comme ça, voilà. Donc, Francis avait dans sa tête, Giono, les troupeaux, il avait aussi dans sa tête, c'était l'époque des premiers Segers, poètes d'aujourd'hui, toute une collection, et je crois qu'il les avait tous ces numéros. Il était lui aussi absolument construit et imprégné par de la poésie. Et le métier dont il rêvait était berger, en pensant que berger ce serait un métier de contemplation, sur une montagne, à garder les moutons et à lire. Voilà, c'est parti comme ça. Mais comme il n'était pas fils de paysan, mais de professeur, il lui fallait un diplôme. Donc il est allé à l'école de berger de Rambouillet, il a suivi des études là-bas, il a eu son diplôme, et il a pu obtenir avec ce diplôme une aide de la SAFER pour acheter une ferme, des terrains. Et finalement, il est revenu ici dans les Vosges, et moi je l'ai accompagné, chercher ce terrain. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, aller marcher avec lui, se promener, chercher, est-ce qu'on va trouver une maison, est-ce qu'il y en a une ici, voilà, c'était une sorte d'exploration, là, peut-être, une des premières entre nous. Et c'est comme ça que nous avons trouvé ce lieu, Bambois, qu'un paysan était sur le point d'abandonner parce qu'il n'en pouvait plus, qu'il était seul, sa femme l'avait quitté. Rien encore autour de cette maison ne présageait vraiment le lieu qu'il allait devenir pour nous. Les arbres étaient plutôt tous coupés, on faisait du bois, on se chauffait au bois. Il n'était pas charmant, il n'était pas beau non plus, il était très très fonctionnel. Voilà, c'était un lieu fonctionnel, mais la maison avait cette sorte de beauté oubliée, défraîchie, usée, complètement décrépie, avec une source qui coulait devant, une source magnifique dans un abreuvoir, des toutes petites ouvertures, des chambres qui étaient très basses, il fallait presque nous baisser. Ça semblait être une maison une maison de comte, dans laquelle des habitants très petits, presque des nains, avaient vécu. Et en fait, cette maison, elle est située au pied du Brézoir, et le Brézoir est un ancien lieu absolument mythique qui appartient à Sainte-Marie-aux-Mines de l'autre côté, bourré de mines dès le XVe siècle, dans lesquelles on allait chercher aussi bien le plomb que l'argent, que le cuivre. Et voilà, donc c'est un pays minier, un pays d'hommes tout petits qui rentraient dans la terre. C'était aussi le lieu où Grunewald, sans doute celui du retable d'Isenheim, celui du musée Unterlinden à Colmar, possédait une ou deux mines, allait voir les grands feux de forge, où il récoltait sans doute de l'argent natif, c'est-à-dire des blocs qui ressemblent à des fougères. Voilà, c'est un lieu magique, un lieu de grandes forêts aussi, dans lesquelles on peut encore se perdre. Et voilà, c'est tout ça, nous l'avons découvert petit à petit. Mais au départ, oui, une maison. En très mauvais état, mais encore une fois, je pense que la féerie et la pauvreté sont parfois liées. Parce que je me souviens m'être endormie dans une chambre qui était entièrement tapissée de gel. Et ça brillait. Il y avait des cristaux de gel sur tous les murs, parce que les murs étaient humides. Et on se réveillait comme ça dans une sorte de grotte d'étincelles. Et aussi le givre aux fenêtres. On était très jeunes, le confort n'avait pour nous aucune importance. Et ce qui nous importait, ce qui allait compter, on sentait bien que ce qui allait compter, c'est le troupeau qui allait venir. On allait choisir un troupeau, il fallait un troupeau. Qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas marié, qu'on soit ensemble de cette façon ou non, ça n'avait aussi aucune importance. Nous avions fait ça à deux le plus naturellement possible. Et voilà, cette vie dure nous a plu ensemble en même temps, sans qu'on se pose des questions administratives.
Ça ne s'inscrit pas dans une mouvance qui aurait pu annoncer, par exemple, mai 68 ou le refus de la société de consommation?
Non, pas encore. Pas encore. C'était en 65. Et d'ailleurs, le troupeau que nous avions était un troupeau de brebis. Ça n'a rien à voir avec les chèvres qui sont venues ensuite et qui demandaient peu de terrain. Non, c'était un troupeau de brebis, nous en avions une centaine, et c'était dans l'air du temps. On est complètement dépendant de l'époque dans laquelle on vit. On est chaque fois les enfants de notre époque. Nous avions une fontaine, un jet d'eau et des chambres où nous installer, et c'était ça qui nous semblait la perfection.
Avec cette idée de partir à l'aventure. Vous avez cette phrase dans Un chien à ma table, je crois, que Bamboua est un lieu d'aventure, mais pour la clandestinité. Donc cette idée quand même d'être à l'écart, de pas être avec la foule, d'avoir une vie un peu secrète, souterraine, presque.
Oui, je pense que c'est ça. C'est de ne pas être pris dans le système social, de ne pas avoir vraiment de boulot avec un patron, de ne pas aller à certaines heures. C'est pourquoi j'ai donné si vite ma démission à l'Éducation nationale, parce que ce que nous commencions avec Francis ici, même si c'était beaucoup plus difficile, plus aléatoire, plus risqué. Il n'y avait plus de traitement à la fin du mois. On était sans ressources, et l'un et l'autre, quand j'ai donné ma démission. On allait habiter dans la montagne et être obligé de nous débrouiller avec la façon, avec les moyens du bord. Voilà, et c'est absolument ça. Mais ça, c'est une question de tempérament. On a ce genre de tempérament qui préférons l'aventure et le risque et le danger, et se mettre en danger plutôt que quelque chose que la sécurité. Voilà, la sécurité, là non plus, gagner de l'argent, avoir une position sociale, rien à faire. Voilà, rien à faire. Et ça, pour Francis, c'était un grand maître. Francis savait très très bien faire ça. Et je crois que je l'ai suivi aussi pour ça. C'est quelqu'un qui sait dire non, très bien non. Reste l'essentiel, c'est-à-dire une vie qu'on invente.
Et c'est ce que vous racontez, d'ailleurs, dans un livre que vous allez publier en 1973, qui s'appelle Bamboua, La vie verte. C'est un livre qui raconte votre expérience quotidienne, donc de 1964-65 à l'hiver 72-73, une sorte d'ensemble de fragments, de notes écrits par Francis et par vous, d'ailleurs, où vous racontez ce quotidien à Bamboua. Donc, pourquoi ce livre? Est-ce qu'il y avait la volonté de témoigner de ce que vous étiez en train de créer?
Je ne sais pas si c'était la volonté de témoigner, c'était déjà quelque chose qui était en moi, c'était le besoin de prendre des notes. Quand on voyage, quand on explore, quand on vit des choses qui sont fortes, et pour essayer aussi de surnager, de sortir la tête de l'eau, avoir un cahier le soir ou des carnets de notes, prendre des notes. C'est un récit brut. C'est un récit d'expérience brute sans aucune volonté littéraire.
Je dégaine un peu de la tête parce que tout de même, on voit votre goût de la poésie.
La littérature est là, mais c'était le côté brut de ce que peut être la littérature, voilà, qui m'avait intéressée, comme un carnet d'explorateur. Et oui, c'est un petit récit qui est sorti en 73 aux éditions Stock, sous le titre « Et directement en poche ». Et directement en poche et dans une collection qui était une collection, je dirais, presque sociologique. Et notre succès a été un succès sociologique. Voilà, ça s'est trouvé en plein dans l'air du temps, dans les aspirations d'un temps. Voilà, c'est bon bois, c'est la vie brute dans la montagne. Et c'est en même temps aussi, je m'en suis aperçue à la réflexion, c'est aussi un livre d'initiation. C'est un récit initiatique. Dans la mesure où on a traversé infiniment d'épreuves, il faut deviner que, voilà, à deux dans la montagne, avec des saisons qui étaient extrêmement difficiles à l'époque, sans 4x4, le village lui-même n'avait pas de chasse-neige, les enfants, comment allaient-ils aller à l'école?
Parce que vous avez eu deux enfants ici.
Oui, deux enfants, Chloé et Robin, et comment faire? Et le troupeau, pas assez de foin, et la maladie des troupeaux, et les vétérinaires, et toute cette vie-là, comment faire? Et le fait d'écrire est une manière de prendre les choses et de pouvoir les observer et de pouvoir y réfléchir. Voilà, c'est une manière de réfléchir à sa vie en même temps. Donc oui, succès qui nous est en quelque sorte tombé dessus. On ne s'y était pas du tout préparé. Et en même temps, je pense que c'est une magnifique vaccination.
Contre quoi?
Eh bien, contre le succès.
Ah, pourquoi?
Eh bien, parce que on y a goûté, on l'a vécu. Et il ne brille plus de la même manière qu'il pourrait briller quand on ne l'a pas connu. On a appris à se mettre un peu à faire un pas de côté, à rester justement dans cet écart. Et d'ailleurs, ça s'est fait tout à fait naturellement, puisque je dirais que les années de laine, teinture de la laine, la laine du troupeau, le troupeau qui est devenu un troupeau porte-laine, tapisserie, vente de ces objets qui étaient des objets plutôt, je dirais, des poèmes de laine brute, qui n'avaient rien du tout de savant, aucun métier derrière artisanal, je ne revendiquais pas une tradition, je ne m'inscrivais pas dans une tradition, c'est pourquoi je ne dirais pas que c'était de l'artisanat, il n'y avait pas derrière moi cette solidité d'une tradition, mais je suis allée plutôt à l'instinct et au jeu et au goût des formes. Et à ce moment-là, nous exposions à Paris, rue du Bac, direct, parce que c'était encore une fois dans l'air du temps. Quelque chose qu'on attendait. On attendait de la sauvagerie. On attendait des choses colorées, odorantes, qui faisaient rêver.
Parce que vous parlez de succès, parce que le livre a eu du succès, les tapisseries, en effet, que vous avez faites avec Francis, parce qu'au départ, le troupeau était plutôt un troupeau d'élevage. Et vous avez changé.
C'est ça. Oui. Très vite. Les terrains étaient mauvais. Les agneaux étaient de pauvres petits agneaux maigrichons. Voilà, on n'a pas du tout continué, on n'a pas voulu continuer dans cette optique, bien que le métier de Francis l'y ait initié, puisqu'on l'avait emmené à la Villette quand il était à la bergerie de Rambouillet. On les emmenait là-bas, les ruisseaux de sang, tout ça, il a connu. Il savait ce que c'était, l'abattoir, oui. Donc oui, on a très très vite bifurqué vers quelque chose de tout à fait différent avec le travail de la laine. Et ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que dans les années 68, 69, 70, où nous avions commencé avec le travail de la laine, la Chambre d'agriculture a été tout à fait d'accord pour que Francis continue à être agriculteur tout en travaillant la laine. Et non plus en faisant de l'élevage. Et là, on a ouvert une porte. Je pense que là, on a ouvert un chemin.
Et donc, si vous parliez de succès, c'est parce que tout à coup, Bambois, qui est tout de même très isolé en pleine montagne, vous avez commencé à ce moment-là à recevoir des visites.
Oui, il y a eu un moment comme ça.
Ouais, avec beaucoup de passages.
Beaucoup de passages. Oui, oui. Et nous sommes devenus même parfois tout à fait incorrects. Incorrects envers les journalistes. Chose qu'on n'imagine plus du tout aujourd'hui. Mais oui, nous avons mis des journalistes à la porte.
Et alors ce tissage, comment est-ce que ça se passait? Parce qu'en même temps que vous avez appris à tisser, vous avez commencé, Francis et vous, à chercher des couleurs, travailler sur les couleurs. Où est-ce que vous avez trouvé vos couleurs?
Alors je parlais de l'importance qu'avait eue pour Francis et pour moi la présence de bibliothèques dans les maisons. Mais il faut aussi parler d'un autre héritage qui nous a beaucoup marqués tous les deux, c'est que nous venons de familles de professeurs, eux-mêmes fils d'instituteurs, petits-fils d'instituteurs. C'est-à-dire que nos parents avaient une connaissance des plantes qui leur venaient de leur père instituteur, avaient des herbiers, pouvaient nommer le monde. Enfant, on nous avait appris à Francis comme à moi à distinguer un érable sycomore d'un érable plane, un pin sylvestre d'un pin noir, le genêt à balai, à connaître les plantes. Et s'il y a une influence qui est venue de l'extérieur et pas familiale, elle est venue des États-Unis, elle est venue de Californie, dans ces années-là, où l'on teignait déjà la laine avec les plantes, mais elle est aussi venue de Suisse. Il y avait une tradition en Suisse de teinture de la laine et de filage de la laine. Voilà, alors c'est par ces influences diverses que nous nous y sommes mis, et sans trop tâtonner, puisque les plantes n'avaient pas de... Et puis également, nous étions aussi tombés sur la littérature du XVIIIe siècle, comme par exemple d'Ambournay, un livre sur la teinture. C'est le grand teint, le petit teint. En teinture, oui, nous avons eu là, je pense, un héritage scientifique très sérieux. On n'a pas beaucoup divagué. Et il fallait être sérieux pour que les teintures tiennent. Donc, oui, c'est une exploration d'ailleurs du monde autour de nous, directement les plantes qui nous entouraient, encore une fois, donc le troupeau sur place, les plantes teintoriales sur place, l'abreuvoir devant la maison, un chaudron de cuivre, un chaudron de fonte, parfois des cadeaux, des gens qui venaient, on a très souvent croisé sur notre route des personnages, presque des personnages de contes, qui se dressent devant vous sur le chemin, puis qui vous indiquent le bon chemin, qui vous aident, qui vous sortent de traquenard. On a rencontré plusieurs personnes comme ça, dans notre vie, qui nous ont beaucoup aidés.
Il y a cette phrase, je crois que c'est une phrase de Francis Hunsinger, qui dit que, dans Bambois, ce qui me plaît tant dans la teinture, c'est d'avoir ouvert le réservoir aux couleurs qu'est la montagne. Et vous avez évoqué tout à l'heure le peintre du XVIe siècle, Grunewald. Il y a aussi cette quête qu'a Francis de retrouver des couleurs à partir des minéraux aussi.
Tout à fait, tout à fait. Oui, il a commencé avec la teinture et les couleurs végétales, et ensuite, sans doute influencé par ce qu'il venait de découvrir, c'est-à-dire l'inventaire de succession de Grunewald. Ce que Grunewald avait laissé à sa mort dans son atelier. Qu'est-ce que c'était cet inventaire? Eh bien, c'était des couleurs. Rien que des couleurs, et pesées au gramme près. C'est très rare que l'on entre dans l'atelier d'un peintre et qu'on ait comme ça accès à quelles avaient été ses couleurs. Et là, par cet inventaire de succession, parce que les couleurs sont des minéraux et peuvent coûter très cher, donc elles avaient été pesées, il s'est trouvé face à cet inventaire. Et il s'est dit, je vais prendre à mon compte cette succession. Je vais être d'une certaine façon le fils adoptif de Grunewald. je vais aller rechercher ces couleurs dans la montagne. Voilà, des choses comme ça. Ou bien, il a aussi eu une commande des archives de Périgueux, sachant quel était son travail, sa passion, c'est-à-dire extraire les plantes et les pigments, les minéraux des terres. Périgueux lui a demandé une recherche sur les couleurs de Lascaux. Voilà, donc on a sillonné les alentours de Lascaux, jusqu'au noir de manganèse qu'on trouve dans la terre et qui ressemble étrangement à une truffe. Le manganèse est une sorte de concrétion et qui donne du noir, parce que le noir de Lascaux n'est pas forcément du charbon de bois, mais du manganèse. Voilà, des choses comme ça. Et toujours en lien aussi avec, là encore, Francis, des personnages de l'histoire de l'art ou des chercheurs autour de Lascaux et très, 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 très pointus. Et les recherches devaient, nos recherches devaient être très élaborées.
Il y a dans ces années-là, Claudie Hunsinger, une sorte de contraste entre cette vie si austère que vous avez pu mener ici avec Francis à Mambois, de frugalité, je dirais même de faim, de froid, parce que ce que vous décrivez...
Jamais de faim.
Ah, jamais de faim, parce que parfois vous avez des descriptions des quelques petits pois qui restent dans votre frigidaire.
Ah oui, mais c'est pour une toute autre raison. Si parfois le frigo est vide, c'est parce que... C'est vraiment pas du tout amusant d'avoir à descendre et d'aller faire les courses. C'est parce qu'on est trop bien là-haut. Alors on préfère encore se passer parfois de manger plutôt que d'avoir à descendre remplir les sacs. Ah, c'est beaucoup plus amusant la frugalité que ça. Oui.
Toujours est-il qu'il y a donc cette vie qui paraît très frugale et à côté de ça, ces expositions qui vous mènent pour le coup dans un environnement totalement différent puisqu'on est dans des grandes villes, que ce soit Paris, que ce soit
c'est un paradoxe.
Lausanne. Oui, ça a été une sorte de paradoxe et quelque chose de peut-être pas toujours facile à tenir pour vous parce
non.
que c'est vous qui sortez de Mambois, c'est
oui.
pas Francis.
Non, Francis. Non, Francis a refusé de savoir conduire.
Voilà, donc oui. Il reste à Mambois.
Oui, oui. Et donc oui, c'est un paradoxe, c'est pas facile. C'est pas facile de revenir. De revenir, parce qu'au fond, c'est une sorte de départ. On quitte quelque chose, on s'enfonce dans un autre monde. Et revenir dans le premier, revenir dans la société, c'est très difficile. Si on ne le pratique pas assez souvent, si on tarde à le faire, alors on devient, c'est très compliqué. On perd des choses importantes. Je sais que... Il y avait eu une exposition à Londres, au Barbican Center. Je me suis retrouvée à Orly, mais j'avais plus de passeport. Ni de carte d'identité. J'avais rien sur moi, comme un acte manqué. Et je suis revenue au Bredouille, ici, voilà, sans des choses comme ça. Oui, on se trouve en vivant comme nous vivons, parce que de toute façon, oui, on a besoin de la société. Ce que nous fabriquons ici, ou ce que nous avons fabriqué, un livre aussi, c'est la même chose. Il est écrit dans la solitude, il est écrit dans un grand sentiment d'intimité, d'intériorité. Et à un moment donné, il faut sortir. Il faut c'est se retrouver entre deux mondes.
Est-ce que vous pensez, Claudie Hunsinger, que ces années ont été le temps de l'insouciance? Quand je pense, j'ai lu Bambois, après avoir lu La Survivance, Les Grands Cerfs, Un chien à ma table, où là plane une menace. Mais par contre, quand on lit Bambois, donc 1973, on a l'impression que le monde est merveilleux.
Il l'était. Il l'était. Il faut se souvenir, c'est l'époque des Beatles. C'est l'époque où on osait tout. Devant nous, le monde n'était pas menaçant. Devant nous, le monde semblait... C'est d'ailleurs... incroyable la vitesse à laquelle, dans nos esprits, le monde s'est détérioré. Les années 60, bien que en 70, on ait déjà été alerté, bien que on ait déjà fait des marches contre l'ouverture de la centrale de Fessenheim, à laquelle j'ai participé, une des rares manifestations, et bien que on ait déjà été alerté par printemps silencieux qui venait des États-Unis, ce livre sur l'empoisonnement de la terre, on était alerté, mais c'était juste une menace. C'était quelque chose qui planait, qui rôdait. Ensuite sont venues les pluies acides dans les années 80. Puis les premières grandes tempêtes, déjà dans les années 80, avant celle de 99. Donc oui, c'est venu petit à petit, mais si on parle d'insouciance, c'était aussi celle de la jeunesse. C'est l'époque où on peut tenter se lancer dans le monde et se mettre en danger plus facilement.
J'aimerais, Claudie Hunsinger, qu'on se quitte sur un poème de Lipo, un poète chinois que vous citez dans Bambois, qui dit « On me demande pourquoi je vis sur cette montagne bleue. Je souris sans répondre. Mon esprit y est à l'aise. » Alors, pourquoi et comment votre esprit est à l'aise ici à Bambois ?
Alors, c'est une question qu'on m'a posée aussi tout récemment et à laquelle j'ai réfléchi tout récemment. Il me semble qu'on est à l'aise ici et que c'est quelque chose qui tient un peu, je dirais, de l'envers. Que si on regarde le monde à l'endroit, on en voit l'utilité. On en voit la causalité, on en voit les fonctions, on en voit l'usage. Tout a une raison, tout a un sens. Mais si on le regarde à l'envers, si on regarde le monde à l'envers, si on se couche dans l'herbe, si on regarde autrement les choses, tout à coup, la finalité du monde est abolie. Il n'a plus vraiment de sens, il n'est plus qu'un jeu de forme, de couleur, de matière, une sorte de danse, quelque chose. Il n'y a plus que la beauté, en tout cas ici, dans la montagne, c'est la beauté qui nous entoure. C'est peut-être ce qu'il y a de plus, c'est l'essentiel. On est dans la beauté du matin au soir. Donc si l'esprit est à l'aise, si un Chinois pouvait être à l'aise dans sa montagne, il y a des millénaires. Mais si aujourd'hui encore, on peut être à l'aise comme un Chinois dans la montagne, c'est si on n'est plus qu'en face, au fond, du nuage qui passe, du vent qui passe, de l'herbe qui pousse, d'un cri de grillon, et voilà, abolit la finalité. Il reste juste la danse des atomes.
Merci. Claudie Hunsinger, on vous retrouve demain à la même heure pour un nouvel épisode d'À Voix Nue où nous allons faire connaissance avec votre pratique artistique et découvrir le pouvoir de votre chaudron de plantes, car il est possible de cuire la nature. Bonne soirée Claudie.
Bonne soirée Céline.
C'était À Voix Nue, Claudie Hunsinger. Réalisation Yvon Croisier. Prise de son Florent Layani. Chargé de programme Daphné Abgral, une série de Céline Duchesnay à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.